effondrement et monde financier. Une rencontre avec Christian Boiseau, ancien gérant de fortune, entrepreneur en efficacité énergétique. Un entretien réalisé en marge du documentaire « Tout commence » de Frédéric Chaffin.
En fait, j'ai plutôt une formation littéraire, sciences politiques, relations internationales. Je me suis retrouvé un peu par hasard pris dans le monde de la finance. Tout au début de l'explosion finalement de la sphère financière. Donc j'ai eu la possibilité d'être en fait un acteur et un observateur en fait un peu privilégié de ce monde qui peut sembler bizarre pour beaucoup de monde, pour beaucoup de gens, et qui finalement est quand même le cœur même du système actuellement. Donc j'ai vécu ça de 84, où j'ai commencé une carrière bancaire, gestion privée classique. Ça signifie en fait essentiellement un modèle basé sur l'optimisation fiscale ou l'évasion fiscale qui était en fait légitime en Suisse. C'est un modèle d'affaires qui a extrêmement bien fonctionné. Dans mon cas particulier, j'ai assez rapidement senti quelque chose qui clochait dans le sens que la finance se décorrélait de plus en plus de l'économie et qu'il était devenu effectivement un jeu, mais un jeu qui s'est accéléré, où la spéculation est devenue de plus en plus présente. Et si on fait un bref historique sans vouloir remonter à l'histoire du capitalisme, en fait, qui est surtout due à l'origine à l'accumulation de capital qui a été provoquée par les grandes découvertes, par la découverte de l'Amérique qui a permis de mettre la main sur des ressources abondantes et qui a permis d'accumuler un capital qui, par la suite, grâce aux énergies fossiles, et d'abord, en fait, à la privatisation des communs, c'est-à-dire que les communs pour les agriculteurs, pour les paysans, se sont trouvés privatisés. Ce qui, à terme, a permis de mettre la main sur une main-d'œuvre abondante qui était des paysans déstabilisés, ce qui se passe d'ailleurs en Chine maintenant, de la même manière, c'est-à-dire qu'en fait, une force de travail importante a été dégagée grâce à ça. Bien sûr, le charbon en Angleterre a été à la base de la révolution industrielle et donc de la croissance et donc du capitalisme. Le relais a été pris par le pétrole, donc les énergies fossiles, on les sous-estime peut-être dans le mouvement du capitalisme, mais elles sont intrinsèquement liées au capitalisme et ces esclaves énergétiques dont nous disposons a été le moteur d'une croissance qui a permis une accumulation énorme de capital. On dispose actuellement, d'après les statistiques, environ de 600 esclaves énergétiques, donc l'équivalent de 600 esclaves qui seraient à notre service, esclaves donc humains. Et grâce aux énergies fossiles, à l'électricité, grâce à l'énergie en fait, dont on dispose, on est beaucoup plus riche en esclaves que les hommes de l'Antiquité, par exemple. Les énergies utilisées dans le passé, l'énergie du vent, l'énergie de l'eau, étaient en fait intermittentes et finalement difficiles à transporter. L'invention ou la découverte des hydrocarbures a été une possibilité de démultiplier la puissance, le pouvoir, et donc a permis à chaque citoyen, à chaque consommateur d'obtenir un pouvoir démesuré. On n'imagine pas le nombre d'appareils électriques dont on dispose actuellement. C'est des milliers d'appareils si on regarde globalement, les ascenseurs aussi et les trains. Enfin, donc pour revenir aux causes profondes de cette croissance qui aboutit actuellement à la catastrophe annoncée, qui aboutit actuellement à la dislocation du monde, à la disparition des espèces, au changement climatique, à tous les drames qui nous attendent et qui sont déjà en cours. On a, en 1982, connu ce qu'on a appelé le néolibéralisme, c'est-à-dire Reagan et Thatcher, qui ont commencé à déréguler tout. C'est-à-dire qu'on est arrivé à une sorte de forme parfaite du capitalisme où il n'y avait plus aucun frein à ce capitalisme. Et à ce moment-là, c'est la finance qui a pris le dessus, puisque finalement, la maximisation du profit à court terme est devenue le but ultime des entreprises. Deuxième facteur, la mondialisation, qui a permis, par la compétition et par l'accès à des main-d'œuvre très bon marché, de réduire les coûts de production, donc d'augmenter les volumes, donc effectivement de satisfaire le consommateur qui était devenu la cible privilégiée de tout, puisque finalement le système ne fonctionne que par la volonté de maximiser les dépenses et la satisfaction apparente du monde de la consommation. À partir des années 2000, où on a vraiment connu la première phase de spéculation absurde et irrationnelle en un certain sens, tant bien que mal on s'est remis de cette bulle technologique, puisque en fin de compte, cette technologie balbutiante dont on avait bien l'imaginaire que ça allait devenir quelque chose d'important, la digitalisation du monde a eu lieu et donc finalement toutes ces compagnies technologiques ont remplacé, sont devenues centrales dans notre univers. Ensuite, la spéculation a continué et on est arrivé au cas des subprimes, qui était en fait un accident interne à la finance, une spéculation débridée qui a mené à une catastrophe qui aurait pu devenir dramatique. Et grâce, ou à cause, c'est selon la perspective qu'on peut avoir, en fait, les banques centrales sont intervenues et on arrive à ce qu'on appelle, ou ce qui a été le motto de cette période-là, c'est « quoi qu'il en coûte ». On se souvient de Draghi, il fallait sauver l'économie, sauver la finance, sauver les intérêts particuliers, quitte à mutualiser les pertes. Donc on s'est bien rendu compte que les gouvernements, que la puissance publique essentiellement cherchait à défendre des intérêts privés, eh bien la machine, grâce à des énormes injections de liquidités, a redémarré et la spéculation est repartie de plus belle. Et depuis 2009, le point de bas, on arrive à un système où les taux ont été négatifs, sont à zéro, et ça a permis une multiplication effectivement de la spéculation. Il faut rappeler que la spéculation, depuis la Renaissance, avait été interdite et qu'elle a été permise officiellement en Suisse en 1860, en France en 1885. Et si on se retrouve actuellement dans la situation de mur, cette situation dont tout le monde a bien le sentiment qu'on est à la fin d'une époque, tout le monde sauf les gouvernements apparemment, puisque, comme je le disais, ces gouvernements ont toujours voulu défendre les intérêts privés et surtout n'ont jamais voulu que le système s'arrête. Et donc la croissance est intrinsèquement liée évidemment au capitalisme, encore plus au néolibéralisme, et donc la croissance est tellement obligatoire que les banques centrales continuent à faire tout ce qu'elles peuvent pour éviter tout dérapage et même toute baisse de la croissance économique et du niveau des marchés boursiers. Ce qui fait qu'on arrive à cette situation paradoxale où l'économie a été dévastée par le Covid et où la reprise a été générée par des gigantesques liquidités déversées dans les marchés et ce qui a créé une croissance non pas en V, non pas en U, mais en K, pourrait-on dire. C'est un peu technique, mais ça veut dire que les très riches ont énormément bénéficié de cette situation et les plus défavorisés, les plus fragiles, ont énormément pâti de ceci. Donc l'économie réelle ne s'est pas rétablie réellement, mais l'économie financière, puisqu'on est dans une financiarisation de l'économie totale, elle a été extrêmement bénéfique pour les plus riches, ces fameux 1% de la population qui détiennent 80% des richesses. Si on ne prend pas les mesures qui permettraient, d'une manière relativement harmonieuse, de réorienter les flux financiers, de casser certaines spéculations, de casser une certaine logique capitaliste axée essentiellement sur l'utilisation des combustibles fossiles, on va se retrouver avec une situation chaotique où il sera beaucoup trop tard pour réparer les dégâts. Toute baisse de la croissance signifie précarisation encore plus élevée, des salariés qui ont été les grands perdants de toute la période du néolibéralisme. Au fond, la décroissance, bien évidemment, semble naturellement être la solution. En un certain sens, oui, je suis pour une certaine décroissance. La décroissance, en fait, devrait être simplement une réallocation de la croissance vers des activités réellement utiles, c'est-à-dire recentrer l'économie sur l'humain, ce qu'on appelle le care, l'éducation, la santé, le bien-être. Soit on prend des actions réellement radical actuellement, j'ai beaucoup de peine. J'ai travaillé dans le domaine du développement durable, ou plutôt de l'économie d'impact, de l'économie durable, de la finance durable, comme on l'a appelé, qui a eu le mérite effectivement de détourner dans les portefeuilles certains types d'investissements vers plus d'éthique ou plus de durabilité. Mais alors, je ne crois pas du tout à la croissance verte qui est en fait un totem brandi par les gouvernements pour se dédouaner et pour faire passer, pour effacer le fait qu'ils ne sont absolument pas prêts à agir d'une manière forte, coordonnée, radicale pour modifier la situation actuelle qui ne peut aboutir qu'à l'effondrement, à des effondrements qui seront ravageurs pour les populations, encore une fois, surtout touchant les plus pauvres d'un point de vue géographique à travers le monde et bien sûr à l'intérieur même de chaque nation, les plus fragiles. Alors, est-ce que les États-nations sont capables de le faire? Actuellement, elles défendent des intérêts privés, elles défendent les fameuses multinationales, ces 100 multinationales qui émettent environ 70% du CO2 actuellement émis, qui sont en fait soutenues par des lobbies qui sont extrêmement puissants. Tout ça, c'est des lieux communs. Mais en réalité, on n'arrivera effectivement jamais à réguler cette économie si le logiciel même des gouvernements ne change pas. Maintenant, la démocratie semble avoir beaucoup de peine à faire évoluer ceci. Les gouvernements restent en place, malgré le fait que les populations sont, je pense, sensibles au fond d'eux qu'un changement est nécessaire. Personne n'est prêt à faire les sacrifices nécessaires sur son mode de vie, sur son niveau de vie, pour que la transition soit harmonieuse. Ça, c'est une affaire plutôt psychologique, c'est une affaire en fait de comportement. On met en avant beaucoup l'efficacité énergétique, le comment produire, c'est énormément amélioré, c'est-à-dire qu'on utilise moins d'énergie, on émet moins de CO2 pour chaque production. Les entreprises ont tout avantage d'ailleurs à diminuer leur consommation de matières premières. Le recyclage est possible, l'économie circulaire peut se mettre en place progressivement, mais l'autre face est le comportement des personnes qui, elles, continuent à vouloir que les choses se passent comme avant et ne sont absolument pas prêtes à diminuer une consommation qui a été tellement dictée par la publicité qui, depuis l'enfance, a structuré les esprits, peut-être par aussi une peur de manquer, peut-être aussi une sensation de vide qui doit être remplie par une consommation addictive, une consommation qui est dictée par les très puissants algorithmes, puisque actuellement, la publicité de papa, qui était déjà relativement efficace, c'est du passé. Maintenant, la publicité est tellement bien ciblée qu'elle donne encore plus l'envie, même aux générations montantes, malheureusement, de consommer. Et donc, le changement de consommation et donc de la sobriété qui est absolument la seule solution en fait actuellement pour éviter la catastrophe, cette sobriété me semble être très difficile à obtenir d'une manière rapide. Le stock de carbone dans l'atmosphère en fait est tel que même un aplatissement de la courbe de la croissance ne sera pas suffisant pour éviter un réchauffement de 2-3% de 2-3 degrés. Le rapport du GIEC qui vient de paraître en fait, même si le GIEC est toujours un peu en retard et finalement trop prudent par rapport à la réalité, il ne faut pas effrayer les populations bien sûr, eh bien on se rend compte que le système tel qu'il est actuellement, sans une véritable révolution des consciences, ne pourra pas évoluer assez rapidement et que les objectifs ne seront jamais atteints et que les effondrements, malheureusement, auront lieu. On pourrait atténuer, on est déjà en train de réfléchir à comment vivre avec une terre dévastée, des ressources en eau diminuées, de vivre avec une température qui va devenir insoutenable, de vivre avec une décroissance des rendements de l'agriculture, l'agriculture industrielle telle qu'elle est actuellement sera un élément qui aboutira à une décroissance de la production agricole. Et donc là on parle de non pas d'abandonner du luxe, d'abandonner le superflu, mais l'essentiel. L'alimentation, le fait de pouvoir se chauffer, le fait de pouvoir vivre dignement, je crois que tous ces éléments-là vont s'aggraver et que la population va se trouver, sans en avoir actuellement conscience, va se retrouver devant des situations assez dramatiques et que malheureusement, ces événements semblent être lointains et donc évidemment quelque chose qui est repoussé dans le futur crée une sorte de déni et évidemment empêche de prendre vraiment des mesures radicales. Et quand on voit la levée de bouclier contre la moindre mesure qui pourrait diminuer entre guillemets la liberté de consommer, la liberté d'acheter des SUV, qui représente plus de 50% de l'achat de nouvelles voitures, pure hubris, pure volonté de se distinguer, enfin, se distinguer comme tout le monde les a, ça ne distingue pas vraiment, mais de voir une sensation de puissance, cette mise en cause finalement de la liberté de consommer est extrêmement malvenue et on entend des personnes se plaindre pour une toute petite mesure réglementaire qui modifierait la sacro-sainte liberté de consommer n'importe quoi, n'importe comment pour jouir est insupportable et inaudible pour la plupart des gens dans la population actuelle des pays développés. Donc en fait, on arrive vraiment à un déni total face à ce qui inéluctablement se passera. C'est vrai qu'on a parlé d'effondrement, toutes sortes d'effondrements, c'est pas un effondrement, c'est des effondrements successifs, alimentation, énergie, des effondrements sociétaux, des effondrements civilisationnels, tout ce qu'on veut, mais ce qui m'intéresse beaucoup actuellement, c'est, bien sûr, en tant qu'ancien gérant de fortune, je continue à regarder de très près les marchés financiers, qu'est-ce que peut signifier un effondrement financier ? Alors évidemment, la grande référence, c'est 1929. Bien évidemment, les spéculations qui ressemblent beaucoup à celles actuelles des années 20 ont abouti à une catastrophe économique, à une dépression qui a eu des conséquences sociales absolument colossales, je veux dire même politiques. Les régimes totalitaires se sont mis en place à peu près dans la foulée de cet effondrement. Bon. Maintenant, aujourd'hui, bien sûr, les banques centrales, les gouvernements ont tiré les conclusions de 29. Bien sûr qu'en 2008, tout le monde a dit « quoi qu'il en coûte, tout ce qu'il faut pour sauver le système bon, ». Ils sont allés tellement loin, ils ont été tellement efficaces que non seulement le système n'a pas périclité. Maintenant, effectivement, le système a été si bien sauvé que l'économie basée sur les liquidités abondantes et sur les taux zéro, voire négatifs, et sur l'endettement, puisque finalement, on a essayé de soigner le mal qui était un endettement excessif et spéculatif en 2008, ça a été un des déclencheurs. On est arrivé en fait à soigner le mal par le mal, puisqu'on est dans une situation actuellement en 2021 où la somme de dettes est encore 10 fois plus importante. Je constate qu'à chaque risque de fléchissement, à chaque correction, ne serait-ce que de 1 ou 2% des marchés boursiers, du Standard & Poor's 500, du Dow Jones, peu importe, en fait des indices, on voit le discours de la Banque centrale évoluer de manière à rassurer les marchés qui sont à tel point rassurés qu'ils continuent à investir, qu'ils continuent à acheter des actifs surévalués, dans la simple idée que la Banque centrale ne les laissera jamais tomber. Le problème, c'est le néolibéralisme, la financiarisation de l'économie. Et ça, c'est un modèle qui est incompatible avec la survie de l'espèce. Il y a une logique telle que sans la croissance de la consommation, sans l'accélération de des transports, des communications, de la colonisation des esprits, de la croissance à tout prix, le système ne peut pas générer les bénéfices à court terme qu'attendent les investisseurs. Les investisseurs, bien sûr, on pourrait espérer qu'ils se contentent d'un moindre rendement en investissant dans, pourquoi pas, des énergies renouvelables. Donc il y a une volonté des acteurs financiers d'avoir un profit colossal à court terme. Et là, on peut parler des dérives actuelles totalement époustouflantes, où certaines valeurs qui ne gagnent pas d'argent ont vu leur cours doubler ou tripler. C'est de la pure spéculation. La génération actuelle a pris conscience de la dimension du problème. D'un autre côté, je suis un peu aussi frappé par un autre type de jeunesse qui a été tellement bien dressée, tellement bien conditionnée, qu'elle se jette sur le type de consommation extrêmement nuisible pour la planète et extrêmement addictif, qui sont par exemple les vêtements. L'industrie du textile, l'industrie du vêtement est une des industries les plus polluantes du monde et pourtant très désirable. Et ça, c'est une part de la jeunesse aussi. Donc en fait, il y a à la fois une conscience qui et une volonté d'agir qui est magnifique et qui est peut-être frustrée actuellement. Ça crée beaucoup de frustration parce qu'on se rend compte que c'est tellement difficile de faire bouger un système extrêmement bien ficelé, extrêmement contrôlé. Moi, je suis très inquiet parce que j'ai l'impression que la jeunesse réellement qui prend son destin en main est relativement minoritaire par rapport à celle qui est tellement bien formatée qu'elle consomme et qu'elle continue à fonctionner comme ça a été le cas souvent. La jeunesse actuelle, c'est celle qui a été pratiquement qui est née avec le moment où le monde s'est dématérialisé, s'est digitalisé. Ce qui était au fond une bonne idée. Je pense qu'il y a eu un grand rêve de ces jeunes ingénieurs qui ont mis au point les ordinateurs portables, Internet, les réseaux sociaux, le smartphone, etc. Il y avait... C'était des ingénieurs qui étaient en fait issus de la contre-culture américaine et qui voulaient radicalement transformer le monde et se débarrasser de ce vieux monde du XXe siècle qui a été tellement négatif, qui a été tellement violent, qui a été si lourd. Maintenant, ça aboutit évidemment grâce à la logique financière, une fois de plus, à ces énormes monstres, ces nouveaux monopoles que sont les GAFA, qu'on connaît bien, qui ne payent pas d'impôts et qui structurent les esprits, qui les colonisent totalement. Donc effectivement, un rêve utopique qui a si bien marché aboutit à quelque chose qui nous projette encore plus dans l'hyperconsommation et dans un flot d'informations qui brouille les esprits. Donc, alors, qu'est-ce que la génération nouvelle, finalement, va pouvoir faire ? Il y a une certaine... Alors, on pourrait parler aussi, mais il y a tant de choses à dire sur les crypto-monnaies, sur la blockchain, ce qui est peut-être la suite logique, en fait, de la digitalisation du monde, de la désintermédiarisation, c'est difficile à dire, désintermédiarisation, parce que finalement, c'est créer un Internet 3.0, c'est se passer des banques, se passer des notaires, se passer de tous les intermédiaires pour arriver à cette espèce de rêve libertaire du peer-to-peer. Et qu'est-ce que ça peut donner ? Ça peut transformer encore radicalement les choses. Est-ce que ça peut permettre de freiner la catastrophe ? Sans doute. Alors, est-ce que les banques centrales ont grillé leur dernière cartouche et que finalement la prochaine catastrophe ne pourra pas être sauvée et que les acteurs financiers, que les acteurs économiques vont être livrés à eux-mêmes ? Est-ce que ça peut rapidement faire prendre conscience de la fragilité de notre monde et provoquer un changement rapide ? Je ne sais pas, ça risque de créer des dislocations extrêmement violentes, extrêmement pénibles à vivre. Très franchement, je ne suis pas très optimiste. Se défaire des énergies fossiles est extrêmement difficile dans un monde où le capitalisme s'est basé sur les énergies fossiles. On coupe la prise, ce qu'il faudrait faire. Si les compagnies pétrolières ne peuvent plus extraire leurs réserves, alors on aboutit à une perte de valeur effectivement de leurs actions, puisque finalement elles sont beaucoup basées sur leurs réserves. Mais si elles exploitent toutes les réserves qu'elles ont, on arrive à un réchauffement de 5 degrés, on est très mal parti là. Alors, une transition énergétique, oui. Genève s'y attelle, on essaye de travailler, peut-être le niveau local peut être plus réactif que le niveau national qui a des silos très en place, qui est très dépendant des lobbies. Peut-être qu'il y a une possibilité au niveau local de faire certaines choses. Oui, une transition énergétique, c'est bien. Est-ce qu'on a le temps d'avoir une croissance verte, qui est un oxymore d'ailleurs, j'y crois pas du tout, d'avoir une transition énergétique progressive, même ambitieuse, je ne sais pas. Je crois que le temps est très compté et qu'il faudrait un miracle en fait pour qu'on s'en sorte et que les esprits se défassent de leur addiction totale effectivement au matériel et à la consommation. Et on pourrait rêver à une transformation spirituelle. Est-ce que c'est un axe difficile? C'est très personnel comme évolution, très personnelle. Peut-être que l'information, peut-être que l'éducation serait nécessaire. Les deep ecologists parlent de la pédagogie des catastrophes, mais il y a peut-être une autre pédagogie. Il y a peut-être finalement de faire comprendre qu'on ne peut pas continuer de cette manière-là, qu'il faut faire des choses très rapidement, un virage radical. Et ça, ça demande beaucoup de pédagogie. Peut-être que... ce serait un changement de civilisation, de perspective, de perspective qui naîtrait de la personne elle-même, de sa conscience. Peut-être que ça serait une solution. Peut-être qu'il y a un miracle qui peut se passer. Je sais pas. D'un autre côté, rationnellement, bon. Il existe quand même encore de la beauté. On a des endroits magnifiques. Cette beauté, il faut pouvoir absolument la préserver. Ces fleurs, elles ne peuvent juste être aimées et d'être respectées. Non, c'est trop difficile.
C'était Christian Boiseau. ancien gérant de fortune, entrepreneur en efficacité énergétique. En marge du film « Tout commence » de Frédéric Chauffin. Réalisation, images et son, Frédéric Chauffin. Montage, Naïma Béchiri. Une production Les Films du Tigre, Close Up Film, 2023. Plus d'informations sur www.toutcommence.lefilm.ch.